Le racisme anti-asiatique, c'est un racisme qui est positif, si on veut bien. Ça veut dire, ouais, toi t'es étranger, mais ben vous les bridez, vous êtes bien. Vous êtes travailleur. On m'a dit, hein, vous êtes travailleur, pas comme les Arabes ou les Noirs. Ça, on me l'a dit souvent. On le prenait positivement, moi je le prenais positivement. J'étais là, ah ouais, moi je suis un étranger, mais je suis un bon. On dérange pas, on bosse. C'est peut-être ça qui était le plus dur. C'est ce bon racisme, en fait.
Bienvenue dans la saison 3 de Brise-Glace, un podcast du temps qui s'intéresse à tout ce qu'on n'ose ni dire ni demander aux gens qui nous entourent. On l'a appelé bol de riz, Game Boy ou Jackie Chan. On lui a demandé s'il pouvait réparer des ordinateurs, puisque, c'est bien connu, les Asiatiques sont bons en maths et en informatique. On lui a suggéré de rentrer dans son pays. Aujourd'hui, Yann, Lausannois d'une quarantaine d'années, se décrit comme Viet. Au micro de Brise-Glace, il raconte le silence qu'on lui a appris à observer face au racisme ordinaire en Suisse, mais aussi la fin d'un tabou.
Alors, bonjour, je m'appelle Yann, j'ai 40 ans, je suis né en Suisse, à Genève, à Meyrin. Ma mère, elle, est indonésienne d'origine, fille d'expat, et je tiens à ce terme, parce que souvent on dit alors, tes parents, ils ont immigré, puis je fais non, mon grand-père était expat, quoi. Donc mon grand-père avait été muté, en fait, par sa compagnie en Hollande. Là, on voit les liens coloniaux, post-coloniaux. Entreprise d'État, Shell, dans le pétrole. Donc mon grand-père a posé ses valises en Hollande après avoir fait pas mal de pays. C'est un petit peu ces trajectoires d'expat où ils finissent au QG. Puis du coup, ma mère était à l'Uni en Hollande et puis elle a suivi les cours de Piaget. Alors elle est venue en Suisse où il y avait Piaget qui enseignait à Genève. Et puis mon père, donc lui, il venait du Vietnam. Il est arrivé avant la guerre, enfin tout au début. Donc ils sont vraiment deux Erasmus, en fait, qui ont décidé de rester en Suisse. Et ils sont rentrés à l'Uni de Genève. Pas tout à fait sur les bancs de l'Uni, parce qu'ils n'étaient pas dans les mêmes facs, mais c'est des profils, on va dire, plutôt classiques d'expatriés asiatiques, ou asiatiques indirects pour ma mère, vu qu'elle venait de Hollande. Puis voilà, ils ont décidé de rester.
Et de s'établir à Genève, quoi.
S'établir à Genève d'abord, ouais. Là où je suis né en 79, le 28 décembre. Alors, mon père a rapidement bossé pour Nestlé, comme expat lui-même. Il y a un petit peu cet attrait du voyage. On a été baladé, ou plutôt on l'a suivi. Donc on a habité à Madagascar, au Brésil. Puis on revenait chaque fois deux ans. Notre QG, c'était Vevey. Vevey qui reste une petite ville, mais qui est quand même assez cosmopolite. Et là, j'ai eu la chance de tomber directement dans une classe où il y avait un autre Viet. Et je dis Viet parce que bon, moi, je suis métisse asiatique, indonésien, vietnamien. Mais Dan, qui est toujours mes meilleurs amis aujourd'hui, lui est métisse suisse vietnamien. Quand je pense à ça, donc à Vevey, j'avais une sorte de référence à une Suisse où il y a une mixité, une diversité. Et puis après, effectivement, on a habité à Madagascar, au Brésil. Madagascar, par essence, est mixte. Le Brésil, il y a beaucoup d'Asiatiques. Je crois que c'est une des plus grosses communautés japonaises du monde. Nous, on habitait dans un petit village, près de São Paulo. Mais dans l'école où j'allais, il y avait aussi des autres jeunes Asiatiques. C'était très, très mixte. Donc j'ai grandi dans cet environnement-là. Et puis à 9 ans, mes parents ont voulu nous fixer, histoire qu'on ne change pas d'amis tous les 2 ans avec mon frère. Et on s'est fixé à Yverdon les Bains, en 89. Pouf, à 9 ans, il nous pose à Yverdon. Gros changement de décor. Je suis le seul asiatique de ma classe. On doit être 2 ou 3 dans le collège. On est très peu. Et on est tous, enfin, pour les gens, quand t'es le seul jaune, bon, déjà, il n'y a pas plusieurs pays, quoi. C'est les jaunes. Et on est tous de facto des réfugiés. Des immigrés, des gens qui sont venus parce que c'est mieux en Suisse. J'ai le souvenir, en fait, d'être présenté par la prof de classe quand j'arrive à Yverdon de ma nouvelle classe. Et en fait, elle avait fait l'hypothèse que je venais d'un pays en guerre. Et en fait, elle a présenté comme ça à la classe.
En disant quoi exactement?
En disant, voilà, Yann, explique-nous d'où tu viens. Est-ce que ça a été dur? Vous avez fui quelque chose? Ah, tu viens d'un pays en guerre? Parce que forcément, quand on dit qu'on est moitié vietnamien ou vietnamien, il y a la représentation des gens, en fait. Il y a eu beaucoup de films sur la guerre du Vietnam. Donc, je pense que l'importance des médias et de... des objets culturels ou des artefacts culturels mainstream. Voilà quoi, c'est Good Morning Vietnam, c'est la guerre et c'est les méchants petits jaunes qui se cachaient dans les trous et qui mangent du riz. Et en fait, on me le sortait souvent. Puis j'étais un peu là, non, ils sont... Enfin je me rappelle en fait n'avoir rien répondu. Parce qu'on a été comme éduqués dans l'intégration pure. Mes parents, ils nous ont appris à parler français, anglais, allemand et pas nos langues d'origine. On a des prénoms totalement francophones. Mon vrai prénom, c'est Yann Olivier. Le vrai prénom de mon frère, c'est Francis Xavier. Enfin, c'est genre vieille France, quoi. Mais dans l'école où j'allais, moi, mon surnom, c'était Bol de riz. Ça l'a été pendant 9 ans. Et j'avais un deuxième surnom, qui était mon surnom quand je jouais au basket, c'était Game Boy. Game Boy, ça vient de petit japonais. Petite console de jeu, quoi. Mais il y avait... personne ne m'avait donné de raison. Puis moi, je me suis inventé une raison, en fait. J'étais là, ouais, il m'appelle Game Boy parce que c'est petit mais efficace. Mais enfin voilà, ça c'était ma propre interprétation. Donc j'ai eu ce réflexe de positiver. Mais en même temps, je crois pas que c'était forcément une stigmatisation. C'était des jeux de mots, c'était pas encore super méchant, quoi. Ça reste encore assez innocent. Entre 9 et 12 ans ou 13 ans, c'est juste du recyclage de représentations communes. C'est-à-dire que, ben voilà, on était gamins, et puis il y avait les frouzes, il y avait les espingouins, il y avait les ridzouls, et puis il y avait les jaunes. Mais je crois pas que je l'ai vécu au début comme une stigmatisation, en tout cas pas de façon consciente. Tout le monde s'appelle quelque chose, tout le monde avait un surnom. En 89, il y a Michael Chang qui gagne Roland Garros. Et ça, je trouve que c'est un fait assez marquant, parce qu'en même temps, il y avait un peu tout le monde, les autres enfants, qui me demandaient « Ouais, c'est ton cousin ?» Parce que oui, on n'est que deux, hein. On n'est qu'une grande famille. Enfin bref. Mais en même temps, nous-mêmes, on était super fans de Michael Chang. Parce qu'enfin, on voyait un Asiatique à la télé. Et je crois que c'est ça le truc. C'est que plus que de la stigmatisation, c'est l'invisibilité médiatique. Il n'y avait pas Internet hein, à l'époque. Il n'y avait pas YouTube. Accéder à des chaînes étrangères, c'était compliqué. Donc on regardait Récréa 2, Antenne 2, TF1, et puis... ce qui était à l'époque TSR. Donc c'était zéro visibilité sur les chaînes suisses ou les chaînes françaises. Avec du recul, je me dis en plus que c'est assez rigolo, parce qu'au Club Dorothée, qu'on regardait tous et toutes, bah, il n'y avait que des mangas. Il n'y avait que des dessins animés d'origine asiatique, en l'occurrence japonaise, mais qui n'étaient pas présentés comme tels, et qui étaient doublés. Puis bon, en plus, les mangas représentent dans leur représentation, ils ne font pas les yeux bridés non plus, donc du coup... A posteriori, je me dis qu'on a été baigné dans une culture japonaise, mais sans le savoir, et qu'on avait zéro idée de qui on est. En plus, j'étais tellement à fond dans l'intégration, mes parents étaient tellement à fond dans l'intégration, que je ne me suis pas posé les questions du tout.
C'était quoi la doctrine familiale, entre guillemets, d'intégration que vous mettez en avant ?
C'est ferme-la et des bonnes notes. Mais même pas ne répond pas, c'était juste rien. C'est n'y pense pas. C'est et ton objectif, et des bonnes notes à l'école. Du moment que tu as des bonnes notes à l'école, va faire des choses. Et puis effectivement, de 9 à 16, 17 ans, ben, je vivais dans un monde où voilà, tu fais partie d'une minorité, et puis tu es un bon parce que tu es calme et que tu te la fermes. Quoi.
Et c'était quoi l'attachement à l'Indonésie ou au Vietnam de vos parents ? Dans quelle mesure est-ce que leurs propres racines, disons, revenaient dans votre vie quotidienne ?
On est allé quelques fois en Indonésie, on avait des visites des familles qui venaient de là-bas, et puis la nourriture.
C'était quoi ?
Ce qui était cuisiné à la maison, en fait. C'est le seul lien qu'on avait à nos racines, vraiment, et qui n'était pas explicité, mais sur lequel on pouvait vraiment, qu'on pouvait toucher. Parce qu'on ne parlait pas de tout ça.
Est-ce qu'il y a eu des moments où, de par justement ce que vous mangez, vous vous êtes senti à part ?
Non, alors ça c'est marrant parce que c'est venu beaucoup plus tard. Je pense que quand on est enfant, on n'en parle pas trop. Puis bon, à la récré, on a tous un farmer. Hein, c'est une de ces barres de céréales de la Migros. C'est vrai que je n'ai pas eu ce truc, parce que ça, on en rigole avec d'autres amis asiatiques. Je ne suis pas allé à la récré avec mon rigluant, quoi, ou mes nems. Non, mais parce que j'avais des amis, ils avaient ça, quoi. Voilà, tout le monde s'échangeait les trucs à la récré, puis il n'y a personne qui veut du rigluant, quoi, forcément. Donc là, il y a une stigmatisation. Mais non, de ce point de vue-là, non. Moi, j'allais avec mes mandarines, mes cacahuètes, comme tout le monde. Donc de nouveau, très intégré. Donc nous, finalement, on mangeait asiatique à la maison, mais on n'en parlait pas trop. Et puis ensuite, on parlait très peu du Vietnam. Je vois qu'il y a un trauma, là, dû à la guerre. Parce que mon père a organisé des boat people quand quand lui était là en Suisse, il a fait venir ensuite mes oncles et tantes. Donc là, on avait quand même des histoires. On avait des histoires sur les méchants Américains. Donc très jeune, avec des images très fortes. Des descriptions très très fortes et très crues des crimes de guerre commis par les Américains dans des villages vietnamiens. Viol, infanticide, tout ça. Et puis ensuite aussi le calvaire de mes oncles et tantes, en particulier de mes tantes, lors des Boat People. Viol par les pirates et compagnie. Donc ça, on avait beaucoup d'idées de ça. Puis en fait, après, l'histoire, elle s'arrête à l'arrivée en Suisse. Donc la Suisse, c'est un peu le havre de paix, quelque part. Et donc, on est déjà bien content d'être là. Donc du coup, c'est assez tranquille, quoi, au final. Et puis, ben voilà, c'est le racisme anti-asiatique. C'est un racisme qui est positif, si on veut bien. Ça veut dire, ouais, toi, t'es étranger, mais ben, vous voulez brider, vous êtes bien. Vous êtes travailleur. On m'a dit, hein, vous êtes travailleur, pas comme les Arabes ou les Noirs. Ça, on me l'a dit souvent. On m'a dit, non, mais toi, ça va. On le prenait positivement. Moi, je le prenais positivement. J'étais là, ah ouais, moi, je suis un étranger, mais je suis un bon. On dérange pas. On bosse. C'est peut-être ça qui était le plus dur. C'est ce bon racisme, en fait, où finalement, voilà, on nous laisse aussi relativement en paix. Je me rappelle, je traînais avec des Éthiopiens et puis des Algériens. Ils vivaient ça beaucoup plus mal, quoi, au niveau de la stigmatisation. Nous, on va avoir plus de facilité à trouver un appart, on va avoir plus de facilité à trouver un job. On va être quand même beaucoup moins stigmatisé au jour le jour, de façon violente. Donc c'est vrai que je ne me suis pas trop posé ces questions-là. Puis je crois qu'après, pouf, je pars à l'Uni et je fais HEC. C'est une fac qui est aussi ultra multiculturelle. Et je ne me pose plus la question. Bah parce que voilà, parce que la moitié des cours sont en anglais, parce que la moitié des étudiants viennent d'ailleurs. Peut-être que j'aurais eu une réflexion différente si j'avais fait, je sais pas, sciences sociales ou lettres. Ou... Il y a plus de conscientisation dans ces facs. Il y a aussi beaucoup plus de bien-pensance, à mon avis. Mais en même temps, c'est des facs beaucoup plus blanches. Parce qu'il y a beaucoup moins d'étudiants étrangers qui viennent faire, en tout cas à l'époque. Moi, je voyais mes potes de lettres ou mes potes de sciences sociales, c'était 95% blancs. Alors que chez nous, c'était 30% people of color, comme on dit aujourd'hui.
Mais est-ce que vous vous êtes retrouvé à débattre de ce que, en fait, des conservateurs pourraient appeler presque une compétition victimaire avec, par exemple, des Arabes ou des Noirs, de ce...
On en rigole. Bon, déjà, nous, sans vouloir faire de communautarisme, hein, on a nos propres blagues, on a... Nous, on s'appelle les bananes. Jaune dehors, blanc dedans. Il y a la même chose chez les Blacks, Wunti ou noix de coco. On en rigole. Quand je dis nous ici, maintenant, c'est entre potes, parce que voilà, on fait des choses ensemble quand même, hein. C'est aussi quelque chose, c'est un marquant. Du coup, on se trouve finalement. Hein.
Donc à l'Uni, là, environnement très cosmopolite, donc mm-hmm. À aucun moment ça devient...
C'est toujours en filigrane. Il y a quand même toujours ces remarques, on va dire que c'est très générationnel, c'est-à-dire qu'à l'Uni, avec mes collègues étudiants et étudiantes d'Uni, il n'y a pas ça. Mais dès qu'on change de génération, dès qu'on discute avec des générations plus anciennes, il y a un risque d'avoir des remarques ou d'avoir des... Ah, tu parles bien français. Ah, tu viens d'où? Ah, c'est marrant, tu parles sans accent. Des fois, des remarques sur la nourriture aussi, quoi. À l'époque, c'était pas la chauve-souris, mais c'est... Ah bah tiens, combien de fois t'as mangé du riz cette semaine? Ça revient souvent, quand même. C'est pas des trucs hyper marquants, mais c'est quand même toujours là. Toujours, toujours. Ah, tu peux m'aider avec mon ordinateur? On est tous bons en informatique, les Asiatiques. C'est marrant, hein. On est aussi tous forts en maths. Je suis pas au courant. Mais c'est vrai qu'il y a ça, ouais. Tout le temps. Et souvent, c'est pour demander de l'aide, hein. C'est un... J'ai un problème avec mon ordinateur. Mais je ne sais pas réparer les ordinateurs.
Mais alors, justement, parlons de ça. Comment on répond?
Pendant longtemps, justement, je ne répondais pas. Enfin, c'était... De nouveau, j'étais dans mon éducation. On laisse filer, on essaye. On se conforme à l'attente, on se conforme au stéréotype.
Donc, pour ne pas froisser, on essaye de réparer l'ordinateur.
Pour être accepté. Pour moi, c'était plus loin que pas froisser, c'était vraiment pour être accepté. On se conforme à ce stéréotype du bon étranger qui est travailleur et qui fait pas de vagues. On se conforme. Alors bon, après, on n'est pas tous, ça marche pas toujours, hein, on n'arrive pas forcément à réparer l'ordinateur, en l'occurrence, vu qu'on sait pas le faire. Mais on essaye, ouais. Mais, voilà, on partage quand même ce truc de dire on n'est pas chez nous. Et on nous le fait ressentir. Parce qu'après, il y a des trucs, il y a des épisodes qui sont plus stigmatisants, là, où dans le tram à Genève... On me crie dessus de rentrer chez moi. Ça arrive. 2 à 3 fois par année, ouais. Jusqu'à récemment, je répondais rien. J'ai jamais répondu à une provocation, une insulte.
J'ai une question un peu intime aussi, mais quel stéréotype d'un point de vue sexuel on lit aux personnes asiatiques ?
Les hommes, c'est une petite bite. Et puis pour les femmes, c'est objet sexuel. Il y a tous ces forums pour apprendre à mieux draguer. C'est un mouvement et il y a des sortes de gourous de ça. Puis souvent, en fait, ils disent, voilà, choisissez les Asiatiques parce qu'elles ne se débattent pas. Vous pouvez les attraper, vous pouvez les peloter, elles ne se défendront pas. Et du coup, ça va jusqu'au viol, quoi. C'est pas juste une préférence. Là, carrément, c'est de faire un sort de raccourci culturel sur la façon dont la personne va se défendre et d'utiliser ça pour en faire une cible, en fait. Et ça, c'est des mouvements qui sont assez forts, ouais. En plein de chaînes YouTube, c'est tout un monde, hein. Donc du coup, je m'étais intéressé à ça. Et c'est marrant parce qu'il y a un Suisse qu'on a fait tomber au Japon en 2018. Avec chaîne YouTube et tout, plein de followers. Et son discours, c'était ça. Vous les chopez, elles vont pas se débattre. Venez au Japon, on a trop de fun. Et on a fait un mouvement viral pour le dénoncer. On était plusieurs. Moi, j'étais pas du tout instigateur de ça, mais je me suis joint à ça. Et puis, en fait, le gouvernement japonais l'a viré, quoi. Mais il est toujours là, il y en a plein, hein, dans la nature. Il est comme ça, hein. Donc oui, il y a... Mais c'est, pour moi, c'est du racisme, ouais, bien sûr. En fait, c'est quand je suis rentré du Vietnam que je me suis dit, non, maintenant, il faut...
Il faut faire quelque chose.
Ouais.
Mais comment est-ce que ça se fait, ce tournant ?
Il y a pour moi un événement marquant. C'est avant de partir, 2016, il y a un meurtre à Paris d'un couturier chinois, Shaolin Zhang, si je ne me trompe pas. Et il y a des manifestations d'Asiatiques. Donc ça, c'est 2016-2017. Et moi, ça me touche vraiment beaucoup. Il y a une des premières vidéos virales en disant « Je suis français aussi ». Je ne sais plus quel exactement est le hashtag, mais en gros, c'était ça. C'est « Je suis français » et c'est des Asiatiques. Pour moi, c'est first time. Des Asiatiques qui parlent sur un média européen, en tout cas francophone, français ou suisse. C'est la première fois, 2016. Donc, je parlais des sportifs avant, donc effectivement, il y a eu Michael Chang bien avant, hein, 16 ans, 17 ans avant. Mais culturellement, ici, dans les médias occidentaux, il n'y a aucune visibilité. Donc là, il y a cette visibilité-là. Il y a un mouvement social. Bah, c'est rigolo, hein, parce que le mouvement social, il est commenté à la télé en disant « La communauté chinoise, d'habitude très discrète. » Donc ça montre aussi ça. Et là, ça me touche vraiment beaucoup. Et puis, bah, il y a les réseaux sociaux. Cette vidéo, ensuite, elle a été postée sur une page qui s'appelle « Je suis asiatique » ou « Asiatique et français ». Enfin, je ne sais plus exactement. Mais... Et puis, en parallèle, il y a les stand-up artistes. D'abord les Blacks, David LaChapelle et d'autres. Et ensuite, plus récemment, Ronnie Cheng. Et puis en France, Bun Haimin, le chinois marrant. Et ils inversent le truc. Bun Haimin, il a cette phrase... en disant, ouais, mais attendez, en fait, on est plus nombreux que vous. Hein. Les jaunes, on est plus nombreux que les blancs dans le monde. Donc, en fait, c'est nous la norme. Donc, c'est pas qu'on a les yeux bridés, c'est vous qui avez les yeux ronds. Donc, je propose de vous appeler les hiboux. Là, il y a une sorte de libération de la parole et une visibilisation, l'accession à ces canaux via YouTube, hein, à ces canaux américains, où effectivement, toute cette discussion sur la visibilisation, sur la norme et sur l'appropriation culturelle, elle a beaucoup d'avance. Du coup, moi, je partage des trucs sur Facebook sur l'appropriation culturelle et je me fais remettre à l'ordre par des collègues, enfin des collègues, que je dis collègues, mais des gens des médias, en disant non, mais c'est un truc de ricain, quoi. Ils ont des problèmes. Et de nouveau, mon premier réflexe à l'époque, c'était ok, je réponds rien. Mais au moins, j'ai pu partager ce truc. Et puis en 2018, j'ai fait un long séjour au Vietnam. Parce que mon ami Dan, donc, qui est mon collègue de mixité et de diversité depuis que j'ai 3 ans, 4 ans, lui est parti là-bas il y a 10 ans. Il s'est installé là-bas. J'y allais 2 à 3 mois par année pour le voir. Et parce que j'ai monté du coup un réseau social là-bas. J'ai la chance de pouvoir travailler à distance.
Vous êtes dans quel domaine là ?
Dans la communication digitale. Donc, on peut travailler à distance en s'organisant un peu. C'est vrai que c'était la première fois en fait pour moi de... En passant là-bas 8 mois, c'est la première fois que je vis dans la majorité, en fait. Enfin, j'y suis allé en vacances. Mais là, d'y être plus longtemps... Bah, en plus, j'ai un look comme assez vietnamien, quoi. Je suis typé quand même. Donc les Vietnamiens, ils me prennent pour un des leurs. Ils me demandent tout de suite, c'est pourquoi tu parles pas vietnamien ? Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Dans les pays asiatiques en général, je passe assez pour un local. Vu que je suis mixed race, indonésien, vietnamien, d'ascendance chinoise, je passe à peu près partout pour un local. Que ce soit au Cambodge, au Laos, voire même Japon, Corée. Mais c'est vrai que d'y passer du temps et d'être dans la majorité, bah du coup, on est un peu là même. Pourquoi toutes ces remarques, toutes ces années ? Mais j'étais vieux à l'époque, déjà, j'ai 38 ans, quoi. Et je rentre, et puis je dis, bon, voilà, maintenant, je veux plus. Enfin, je veux plus, je vais répondre. Et puis, bah, c'est marrant, parce qu'il y a un moment, il y a une dépêche ATS avec un pack vidéo. En fait, c'est ces packs de news que tous les journaux, ils reçoivent, quoi. Et c'était sur le Vietnam et puis les serpents. Comment on mange des serpents en Vietnam. Et la vidéo, elle est ultra gore. Il y a du sang partout. Enfin, les Vietnamiens sont vraiment présentés comme des sauvages. Et c'est qu'une sélection d'images qui sont faites pour portraitiser de façon très simpliste cette pratique-là. C'était un montage. Et le temps m'écrit en disant, voilà, est-ce que tu veux commenter ? Mais en commentant avec justement du recul, quoi, en disant, voilà, ces images-là. Il y a plein de YouTubers qui font ça aussi, quoi, c'est pour faire des views. C'est un truc méga gore, alors que... En fait, c'est médicinal. Comme ici, on va cueillir des plantes, plutôt. Où il y a encore quelques dizaines d'années, même, on mangeait du chat, rappelons-le, en Suisse. Et puis, la peau de chat était connue à l'époque pour avoir des propriétés, notamment anti-rhumatismales. Donc, je pense qu'on en est un peu là. Et ça arrive, effectivement, qu'il y ait des endroits qui ne sont pas super hygiéniques, mais comme partout, quoi. Et ça, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, me poursuit encore. C'est-à-dire que, voilà, moi, je fais de la nourriture asiatique et puis il y a beaucoup de clichés là autour. Et je crois que le plus gros cliché, bah, c'est ce qui est arrivé au début du Covid. La soupe de chauve-souris. C'était une vidéo qui a buzzé au début de la crise sanitaire, enfin, quand on a un peu tous eu le confinement un tout petit peu avant. Donc, début mars 2020, où il y avait une fausse vidéo qui tournait sur les réseaux, où ils disaient, voilà, ça, c'est la soupe de chauve-souris que mangent les Chinois. Et aujourd'hui, je l'entends, on me le sort souvent, quoi.
Compte tenu de la pandémie et de la crise sanitaire, est-ce qu'il y a eu un changement notable, en tout cas pour vous, du racisme anti-asiatique ?
Bah, les premières semaines, ouais. Quand ça venait de Chine, et avant que ça vienne d'Italie, parce qu'après ça venait d'Italie, c'était bon. Hein. Non, mais quand ça venait, ouais, les premières semaines, donc début mars, bah, dans le train, on change de place quand moi je suis là. Par contre, on va s'asseoir vers quelqu'un de pas asiatique, encore plus près. Parce qu'au début, on se dit, bon, bah, peut-être qu'il se lève, il va s'asseoir ailleurs, parce qu'il ou elle a pas envie d'être en face de quelqu'un tout court, quoi. Mais quand la personne, elle est en diagonale, donc on est à 1m50, on respecte les mesures actuelles. La personne se lève et puis va se coller à quelqu'un d'autre de pas asiatique. On se dit, ben voilà, en fait, ils veulent juste pas être près de moi. J'ai eu quelques altercations aussi avec des genres on veut pas de ton virus. Beaucoup dans la rue comme ça. La première semaine de la déclaration d'état d'urgence en Suisse, la semaine d'avant et les deux semaines après. Donc on va dire du 6 au 30 mars. Sur ces trois semaines, j'ai dû compter 8 à 10 altercations. Ouais. Mais beaucoup en zone rurale, pas trop dans les centres urbains, quoi. Beaucoup dans le train, en fait. Donc, des gens qui se lèvent et puis qui disent on veut pas de ton virus et qu'ils vont s'asseoir plus loin. Ou, ça serait pas arrivé si vous mangiez pas n'importe quoi. Il y a aussi eu un truc, c'était quoi ? C'était un quotidien français qui titre Le Péril Jaune, autour du 8-10 mars.
Le courrier Picard.
Ouais, le courrier Picard, ouais. Mais qui s'est excusé depuis. Mais beaucoup de journalistes, enfin, je dis journalistes parce que ben, je suis connecté à beaucoup de journalistes sur les réseaux sociaux. L'ont partagé.
Et vous répondez quoi à ça ?
Bah, il y a un truc qu'on appelle la racisme fatigue ou la fatigue de la justification. Là, c'était un peu ça parce qu'on était un peu là. Bon, de toute façon, tout est tellement émotionnel. Il y a un moment, j'en ai marre. Puis j'exprime juste le fait. Je crois que je partage sur Facebook. Je dis juste, j'en ai marre, quoi. Genre, time out, quoi.
Bah, ça, c'est certain, ouais. C'est une énergie dingue de ne rien laisser passer.
Ouais. Et puis en fait, bah moi j'étais pas mal engagé dans le genre de 2016 à 2018.
Donc l'égalité homme-femme.
Ouais. Et du coup, j'ai été beaucoup sensibilisé à la fois à ces histoires de normes et de rôle modèle et de l'influence des médias sur ce que les enfants veulent devenir, etc. Et puis aujourd'hui, je fais partie d'un collectif de visibilisation positive de la culture contemporaine vietnamienne qui s'appelle Vietnam Now. On est un collectif international, il y a une Canadienne, un Allemand, des Français, des Anglais. Et puis on est tous deuxième génération, quoi. Voilà, il y a aussi ce côté d'être, de connaître mieux sa culture d'origine et la volonté de valoriser en Occident, et notamment en termes de visibilisation. Parce qu'il y a deux choses. La première chose, c'est le whitewashing, hein, donc des figures, hein, ou des personnages asiatiques dans les films qui sont interprétés par des Blancs. Ça, il y en a encore eu l'année passée, hein, The Great Wall of China, ou le Dernier Samouraï avec Tom Cruise, enfin, il y en a tout plein. Hein. Donc ça, c'est le côté invisibilisation. Donc on n'existe pas, alors que dans le caractère, il est asiatique. Et puis l'autre point, ben, c'est que, en fait, le premier film hollywoodien où il n'y a que des Asiatiques dedans, c'est Crazy Rich Asians. C'est 2018. Donc tout ce qui se passe avant, on est invisible. Avec l'exception notable de Bruce Lee et Jackie Chan. D'ailleurs, enfin, à contrario, ben, ces deux-là, ils ont forgé toute la pop culture. Encore il y a quelques années, on m'appelle Jackie Chan sur mon lieu de travail. Et je m'en plains. Bah alors, je lui remonte les bretelles, déjà. Là, je revenais du Vietnam, donc voilà, j'étais à fond. Je lui remonte les bretelles. Dans les grandes lignes, j'ai dit, tu peux pas dire ça, quoi. Ah, il m'a détesté pour le reste du temps. J'étais là, ah bah, j'ai un ami en moins. Ouais, non, il m'a vraiment pris de haut, quoi. Oh, on peut plus rigoler, quoi. Et en fait, la direction là-dessus, elle n'a rien fait. Quand je dis à mon employeur, à la direction, voilà, j'estime avoir été victime d'une remarque qui est raciste et qui est dangereuse pour l'organisation pour laquelle on travaille, parce que si ça se répète, c'est pas terrible. On peut pas appeler quelqu'un qui est juste asiatique, ah ouais, Jackie Chan, quoi. Enfin, quoi, après, tous les Arabes, on les appelle Ben Laden, et puis tous les Blacks, on les appelle quoi. Enfin, pour moi, c'est vachement dangereux. Et le fait qu'il n'y ait pas eu de suite, pour moi, c'est ça le problème. Surtout si on se prévaut de valeurs inclusives et d'intégration, ben là, ça demande une action, quoi. Par exemple, il y a quelques mois, hein, il y a même un mois, au lendemain du décès tragique de George Floyd et des premières manifestations, il y a plein de gens qui ont mis le carré noir. Et puis le mouvement, donc Black Lives Matter, Geneva, il a repéré les institutions, notamment les institutions culturelles, qui ont mis le carré noir. Puis ils ont écrit à chacun en disant, c'est très bien d'avoir mis le carré noir. Maintenant, on attend du changement. Si aujourd'hui on dit qu'on s'engage pour les valeurs d'inclusivité et de diversité, bah, il faut que ça se traduise dans les actes. La discussion sur le genre et la discussion sur l'inclusivité, de la diversité, il y a beaucoup de points communs. Que ce soit au niveau de la visibilisation et des role models, mais que ce soit aussi sur cet effort d'intégration. Moi, je travaille pas mal dans la culture, et c'est bien, parce que c'est en train de changer. Mais pendant longtemps, on a dit, non, il n'y a pas de problème dans la culture. Hein. Pour le discours sur le genre, c'est le même. Hein. Non, mais il n'y a pas de problème dans la culture. Nous, on est progressistes. Mais si on regarde les chiffres et les faits, ben non.
Vous le disiez, en fait, Crazy Rich Asians, c'était le premier blockbuster, entre guillemets, vraiment avec un casting 100% asiatique. Est-ce que c'est en train de changer? Quels sont vos espoirs ou votre vision pour les années qui viennent?
Si on raisonne d'un point de vue capitalistique uniquement, ce qui s'est passé avec Crazy Rich Asians, ce qui s'est passé avec Black Panther aussi, c'est que Hollywood s'est dit « Oh waouh, il y a de l'argent à se faire. » Et du coup, ils vont en refaire. Là, moi, j'ai confiance en cette visibilisation parce que c'est une visibilisation qui est rentable et qui est dictée par des lois économiques. Ah, les Asiatiques deviennent un marché intéressant, donc du coup, il y a plus de produits culturels pour eux. Et finalement, les lois de rentabilité qui dictent la conduite d'Hollywood va presque plus vite que ce qu'on appelle la culture élitiste ou la culture classique, mais qui, elle aussi, évolue. Et je pense qu'on est à un tournant. Il s'agit de bien le prendre. C'est pas encore arrivé ici. Hein. Ça, c'est, on parle d'Hollywood. On parle des États-Unis qui ont beaucoup plus d'Asiatiques sur leur sol qu'ici. Moi, je ne me fais pas trop d'illusions sur la Suisse parce qu'on est très peu. Enfin, j'ai entendu des estimations qui disent qu'on est environ 1%. C'est aussi compréhensible qu'on soit minoritaire dans la représentation culturelle. Ce qu'on voit quand même, c'est que, par exemple, dans tout ce qui est photo, dans tout ce qui est... qui demande des moyens de diffusion qui sont moins lourds qu'un film, on voit quand même beaucoup plus de noms asiatiques qu'avant. Et je pense que c'est un mouvement qui se fait vraiment maintenant. Enfin, ça fait 5 ans, 6 ans. Et là, j'ai vraiment confiance en les jeunes générations parce qu'elles sont beaucoup plus multiculturelles, en tout cas en ville. Puis le changement, il va venir petit à petit.
Pour finir, j'ai noté tout à l'heure que vous vous agaciez du fait qu'on vous demande « Et alors, tu viens d'où ?»
Plus que le « tu viens d'où », moi, ce qui m'a toujours agacé, c'est plutôt le « ah, tu parles bien français ». Mais « tu viens d'où ?» Je pense que la question est inévitable et puis il faut qu'on en parle, bien sûr. Par contre, si ça peut ne pas être la première question, c'est pas mal. C'est comme si ça, ça nous définit. À la limite, on sait à peine mon prénom, mais c'est genre, tu viens d'où? Puis après, c'est, ah ouais, intéressant. Mais je veux dire, on n'y coupe pas. Et nos origines, on doit aussi en parler. Mais ouais, pour moi, ce serait bien que ce ne soit pas la première question.
Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Brise-Glace. Je suis Célia Héron. Cet épisode a été réalisé en collaboration avec Virginie Nussbaum et monté par Sylvie Coma. Pour découvrir tous les autres, rendez-vous sur la page letemps.ch/podcast ou sur vos applications d'écoute. À dans 15 jours!